Bienvenue dans notre podcast sur l'Expo 58. Dans cet épisode, nous vous ramenons à l'année 1958, à une époque où le journal coûtait 2 francs, où la NASA a vu le jour et où le hula hoop en plastique a conquis le monde. Les préparatifs pour l'Expo 58 ont commencé bien des années avant l'ouverture effective de 1958. L'idée et les plans initiaux ont été discutés dès le début des années 50. La Belgique voulait, avec cette exposition universelle, montrer sa renaissance après la Seconde Guerre mondiale et souligner son rôle central au sein de la communauté européenne. La construction effective des pavillons et structures, y compris l'emblématique Atomium, a débuté en 1956. À cette époque, Étienne Tollenaere avait 10 ans et vivait à Bruxelles. Il a découvert l'expo pour la première fois grâce à son père. Ce fut un coup de foudre. 2 ans plus tard, en 1958, lorsqu'Étienne avait 12 ans, il a visité l'Expo 58 à plusieurs reprises.
Donc, ma présentation, si vous voulez. Donc, Étienne Tollenaere, je suis né en 46. Donc à l'expo, je venais d'avoir 12 ans, fin mars, et comme j'ai déjà relaté dans différents enregistrements, j'avais un papa qui était fort intéressé par tout ce qui se passait durant la préparation, l'annonce de l'expo 58, dès 55-56. Et là, j'avais une petite sœur qui avait 2 ans de moins que moi, et nous a dit à l'époque, on avait donc à ce moment-là 10 et 8 ans, hein, 2 ans plus tôt, on va voir cette Expo 58, en principe, qui va nous apporter l'occasion de pouvoir découvrir le monde, la Belgique d'une part, le Congo, qui était prévu aussi, et les pays qui participeront. Donc, pour ces pays-là, on aura l'occasion de voir, d'après les échos qu'on avait déjà à l'époque, le passé, le présent et les projets futurs de chacun de ces pays. Et nous avait dit ça, pour ça, c'était un point intéressant. Vous allez apprendre en histoire et en géographie probablement beaucoup plus et en 6 mois de temps que ce que vous allez apprendre durant toute votre période scolaire. Donc il a pensé déjà aussi de nous acheter un abonnement, etc. Là-dessus, je reviendrai. Dès 55-56, il m'a proposé, comme j'étais un peu partant, on peut dire au taquet, mais j'étais partant, de m'acheter 2 grandes fartes des cahiers. Et dans une farte qui fut consacrée à l'expo, donc à la préparation de tous les articles de presse, des journaux, la construction, l'expo même, et plus tard la démolition. Et dans l'autre farte, on a consacré ça à la ville de Bruxelles. Nous étions bruxellois, on habitait près du cinquantenaire, près du marché commun. Et il m'a dit, tiens, il y avait pas mal de travaux, de chantiers qui commençaient. Les boulevards, on a les tunnels, pas mal de premiers buildings ont été construits, etc. à cette époque-là. Donc c'était un grand chambardement dans la ville. Et donc en parallèle, j'ai fait depuis 55, et là j'ai gardé jusqu'en 80. En 1980, j'ai arrêté, j'en avais. Bruxelles perdait son charme. Mais j'ai fait donc de 55 à 80 l'histoire de Bruxelles, toute la couture de presse possible imaginable, les chantiers, on allait faire des photos près des chantiers du pré-métro, etc. aussi. Et d'autre part, on a fait cette fameuse farte de l'Expo 58. Donc, j'ai accumulé au fil du temps énormément de documentation qui a disparu, au fait, hein, entre-temps. Mais donc, moi, j'ai pu la conserver jusqu'à aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, j'ai été 52 fois à l'expo. Pour moi, ce sont des souvenirs réguliers. On avait ma sœur et moi, par exemple, on va dire 52 fois. Oui, on n'allait jamais le dimanche à cause de la foule, mais on a dû que nos abonnements. Et comme nous habitions près du cinquantenaire, ma sœur et moi, on avait chacun notre abonnement. On prenait le tram après dîner. À nous deux, sans les parents. Et maintes fois, nous avons été passer des après-midi entières, jusqu'à 5-6 heures, et puis on rentrait à la maison.
l'Expo 58 a transformé Bruxelles en une véritable métropole mondiale. Durant les années précédant l'ouverture de l'exposition universelle, on pouvait voir la ville changer. Des constructions étaient activement en cours pour accueillir des millions de visiteurs. Le jeune Étienne, lui aussi, regardait avec de grands yeux les imposantes constructions.
Moi, j'habitais près du cinquantenaire. On était quand même loin, façon de parler. La ville n'était pas plus encombrée. On était plus embêté, façon de parler, pendant les, en 55, 56, 57, par les chantiers de l'Expo. Pour les boulevards, les grandes, en prévision de l'Expo, le Botanique, par exemple, toute la petite ceinture. Moi, j'ai encore eu la chance. En plus, j'avais une grand-mère qui avait construit une maison à Meiss. Meiss, c'est vers Wolvertem. Hein? Et en semaine, pendant les vacances, je parle de 56, 57, que ce soit l'hiver ou l'été, quand on allait chez elle en semaine, ma maman travaillait pas, mais mon père travaillait, donc. Mais on allait parfois chez elle, ou pendant les vacances de Pâques, etc. On prenait le tram de 40, qui était pas loin de chez nous, qui descendait à la place Rogier, et là on prenait le Vicina, le Landersee, le L, qui remontait par le boulevard du Jubilé, qui arrivait ici au pied de la porte Benelux, et qui passait par une ligne de tram qui passait avant l'Expo, hein, en tournant régulièrement, et qui arrivait près de la tour japonaise, à la maison chinoise, là, et puis prenait l'avenue de Metz, qui est devenue la A12. Donc, pendant tous ces travaux de 57, 56, 57, j'ai vu la construction, le terrassement de l'Expo très régulièrement, vu du tram aussi. Jusqu'à un point que quand ils ont mis le tunnel vicinal, ils l'ont créé, et il passait d'ailleurs sous le pavillon français, les voies de tram ont été déviées pendant un autre parcours. On a vu la construction de ce tunnel, etc. Et puis j'ai vu l'évolution de tous les pavillons, du pavillon hongrois, du pavillon tchèque, du pavillon américain, qui était le long de la Douce, de l'avenue de Metz. Je les ai vus. Et par exemple, les constructions ont été, pendant les hivers 56-57, ont été assez pénibles parce qu'il y a eu beaucoup de neige. Je me souviens de la société Tedesco, qui étaient les camions qui de génie civil et les grues qui travaillaient. J'ai vu donc l'atomium qu'on construisait aussi. Il y a eu beaucoup de neige et pas mal de chantiers ont été arrêtés pendant cette période-là. Et c'est ça, entre autres, qui a retardé en 57 la construction du pavillon français, parce qu'avec les neiges, le terrain était devenu très boueux et pour les fondations de ce fameux pied central de la France, il y a eu des retards. Mais tout ça, j'ai vu aussi. Donc tout ça est resté en mémoire.
Il est difficile pour nous de l'imaginer car nous vivons à une époque où le monde tient dans notre poche et en quelques clics, nous pouvons réserver un billet d'avion pour les destinations les plus exotiques. En 1958, c'était bien différent. Voyager n'était pas à la portée de tout le monde et pour beaucoup, l'étranger était inaccessible. Un voyage à Ostende, c'était possible, mais prendre l'avion pour Benidorm, c'était déjà moins évident. Pour beaucoup, l'Expo 58 était donc une occasion unique de faire le tour du monde à Bruxelles.
C'est-à-dire que, non, on ne voyageait pas comme aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas les avions charter, etc. Donc, les gens aisés voyageaient en avion. La Sabena fonctionnait. Il y avait même des hélicoptères qui tournaient ici autour de l'Expo. Mais avec mes parents, on ne prenait pas l'avion, mais on était habitués à voyager depuis tout petit. Et par exemple, au mois de juillet, je sais qu'on allait souvent en Suisse, et les 15 premiers jours du mois de juillet, là, on venait pas à l'Expo, mais par contre, parce qu'on était en l'étranger, les gens voyageaient pas à cette époque-là, comme aujourd'hui, ça c'est certain. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi, des personnes qui, exceptionnellement, cette année-là, ont moins voyagé, mais qui ont préféré passer 6 mois le plus possible à l'Expo. Pour autant qu'ils s'y intéressaient, évidemment.
L'Expo, c'était une manière pour les gens.
Mais c'est-à-dire que c'était les pays qui venaient chez nous au lieu d'aller courir chez eux. Et puis il y a des pays qu'on voyait, le Moyen-Orient, le Brésil, l'Argentine, le Mexique, tous ces pays étaient représentés. Donc c'était une aubaine, quoi.
C'est une manière pour voyager.
C'est une manière pour voyager, surtout pour s'instruire et découvrir.
Étienne connaît tout le domaine de l'Expo 58 par cœur. Il se souvient donc de choses que d'autres ont depuis longtemps oubliées. Par exemple, il y avait de petits trains sur le site que les gens pouvaient utiliser pour se déplacer rapidement. Mais saviez-vous que l'itinéraire de ces petits trains a changé?
Un petit souvenir bien précis et que les gens, en général, ont oublié. Les petits trains avaient un parcours. Ils partaient de le terminus était au fait où ils se reposaient, les chauffeurs, c'était le long des attractions. Ils descendaient à l'avenue de Belgique, donc la grande allée près de l'Atomium. À ce moment-là, ils faisaient un coude ici sur le côté où il y avait le Congo. Ils faisaient tout le tour dans le Congo. Ils traversaient, ils passaient devant le pays, la Hollande. Ils bifurquaient et descendaient derrière la France et faisaient tout le tour des nations étrangères. Ils remontaient vers le monument de la dynastie qui est en face du palais royal. Et là, ils prenaient la passerelle pour retourner tout droit jusqu'au grand palais et derrière les grands palais. Au début, les tout premiers mois, un mois ou deux au début, les trains partaient il y avait deux allées sous cette passerelle. Il y avait les pousse-pousse et les petits trains. Et les petits trains partaient long à droite, si vous voulez, et longeaient le côté où on voyait les États-Unis, Civitas, le Canada et la Russie. Et l'autre côté, c'était la France et le toit de l'Argentine. Il y avait moins à voir. Le pavillon français, c'était pas spécial, c'était assez massif près de la passerelle. Donc la plupart des visiteurs faisaient des photos et regardaient le paysage côté États-Unis, etc. Et c'était devenu assez dangereux parce que le week-end, beaucoup de monde s'amassait. Donc le petit train passait à droite. Et pour éviter un accident ou peut-être qu'ils ont blessé un jour quelqu'un, je n'en sais rien, pendant les 4 autres mois d'expo, ils sont partis à contresens, à gauche, pour faire leur parcours. C'est un petit détail. Mais sur certaines photos d'époque, au début, on voit bien le petit train passe à droite, et puis le restant de l'exposition, le petit train passe à gauche.
L'Expo 58 fut la première grande exposition universelle après la guerre, marquant le début d'une nouvelle ère, une époque de progrès et de prospérité. Plus de 40 pays se sont promus avec des pavillons spectaculaires, essayant de surpasser les autres. Étienne a visité l'Expo 58 pas moins de 52 fois. On pourrait penser qu'il avait tout vu. N'était-il pas fatigué de tous ces pavillons?
Mais il y avait, disons que c'était aussi l'architecture. Les bâtiments m'ont toujours intéressé. Et il y avait deux pavillons remarquables au point de vue technicité. C'était le génie civil, la flèche avec la carte de Belgique, et la France. Les deux ont le même principe. Donc c'était un pied commun qui était ancré dans le sol. Il y avait d'une part une flèche qui équilibrait le poids de tout le pavillon. Et c'est le cas pour les deux. D'ailleurs, quand le pavillon français a été démonté, ils ont eu de très gros problèmes. Ils avaient peur qu'en démolissant à mesure la flèche, le restant allait s'écrouler. D'ailleurs, le pavillon français n'a été ouvert que la fin du mois de mai. C'est le seul pavillon qui n'était pas prêt. Pourquoi? Parce que le pavillon français est juste dans le vallon et le vallon était humide. Enfin, il y a de l'eau. Et pour justement pouvoir planter ce grand pied très profondément dans le sol, ils ont perdu énormément de temps et de l'argent aussi pour l'installer. Donc le pavillon n'a pas été prêt tout de suite. Alors si on me demande aussi quels sont les plus beaux pavillons esthétiquement, pour moi, il y en a deux, trois. C'est d'une part les États-Unis, parce que c'était le calme. J'entends que le bruit de résonance dans ce pavillon. C'était un pavillon où, en plein été, quand il y avait 30 degrés dehors, il faisait frais à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, le centre était vide. On voyait le ciel. Donc c'était comme un ananas. Hein, et au fait, c'était un ciel ouvert. Donc la chaleur partait. Il y avait une certaine... par les portes en dessous, la chaleur partait, il était frais. Donc l'esthétique du pavillon américain, le pavillon allemand, l'ensemble des 8 bâtiments allemands, très, très équilibrés, vitrés, dans un parc bien mis en valeur. Et alors, pour moi, un des plus beaux, c'est le pavillon yougoslave. Si on prend les photos du pavillon yougoslave, question d'équilibre, de modernisme, je dis que pour moi, c'est vraiment un des plus beaux. Je parle d'esthétique. Hein. Je pense à la Hollande. La Hollande, en 1953, il y a eu des inondations. En Belgique aussi un petit peu. Mais en 1953, ils ont eu des grandes inondations avec une tempête. L'eau est rentrée dans les polders. Dès 54 ans, ils ont commencé à restaurer aux usines aussi, à la côte belge. Ils ont donc commencé à réparer les digues. Et puis, ils ont commencé ce grand projet de l'Aisermeer, de la grande digue en haut, et puis de assécher les terres et de fermer tout la sortie de l'Escaut du Rhin, sauf du côté de Terre-Neuve, mais assécher et faire des digues. C'était le grand, grand projet de la Hollande. Le thème du pavillon hollandais, c'était ça. C'était les marées, les digues, assécher, la vis d'Archimède pour faire remonter l'eau. Il y avait des vagues sur une petite partie avec un phare, mais il y avait aussi un grand bac avec des lames, une grande vague dans un bac transparent. Mais ce sont des choses qui, un enfant de 12 ans que j'étais, on était émerveillés. On expliquait pas mal de choses. Les marées, les polders, la France expliquait toute la culture française, dans tous les domaines. Il y avait des choses, on passait des heures dans le pavillon français. L'Amérique, c'était ce renouveau, les arts ménagers, il y avait tout le monde qui était un peu en avance sur nous. Le bar, le pop-corn, enfin, le Coca-Cola, tout ça arrivait en même temps aussi, hein, chez nous. Enfin, Coca-Cola était déjà là avant l'expo, mais disons que c'était l'ouverture des snacks, par exemple. Il y avait un snack. Il n'y avait pas encore de snack en Belgique. Tout ça, c'était nouveau. Le pavillon de transport, celui que j'adorais.
En 1958, nous étions en plein milieu de la guerre froide. Cette période a été marquée par des tensions politiques, des oppositions idéologiques et une course aux armements entre l'Occident, dirigé par les États-Unis, et le bloc de l'Est, dirigé par l'Union soviétique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 90, le monde a été régulièrement secoué par des confrontations sans que les deux grandes puissances ne s'affrontent directement sur un champ de bataille. Et 1958 ne faisait pas exception. Plusieurs événements ont eu un impact durable sur les relations internationales. Il y a eu une crise au Liban, les États-Unis ont menacé la Chine d'une attaque nucléaire lors d'une crise concernant le détroit de Taïwan, et le statut de Berlin-Ouest a provoqué de vives tensions. Les pavillons des deux superpuissances étaient littéralement face à face. Les deux pays essayaient donc de se surpasser mutuellement de toutes les manières possibles. Ainsi, l'Union soviétique a apporté une réplique du satellite Sputnik à Bruxelles. Ce satellite n'était pas seulement un exploit technologique en 1958, il annonçait aussi le début de la course à l'espace. Cependant, le pavillon américain n'était pas en reste. Le bâtiment conçu par le célèbre architecte Edward Durell Stone, également créateur du MoMA à New York, était l'un des plus grands de l'exposition universelle. Il reflétait le progrès technologique américain de l'après-guerre. C'était ce dernier pavillon dont Étienne garde un souvenir impérissable.
Vous aviez l'URSS, vous aviez les États-Unis face à face, et vous aviez les Émirats arabes entre les deux. C'était voulu, hein. D'ailleurs, quand ils ont placé les pavillons, la Russie, tout comme les États-Unis, était d'accord. Et M. Khrouchtchev, qui était à ce moment-là président de la Russie, si je me souviens bien, était quelqu'un qui essayait à ce moment-là de chercher le contact positif avec les États-Unis, avec le monde occidental. Disons que ça, ce sont des choses qui ont été comme choc les gens venaient, les gens visitaient l'expo et allaient voir bien sûr ces deux pavillons qui faisaient face. Il y avait quelque chose qui m'avait fort amusé. Comme je vous ai expliqué, je dessinais, je peignais, je faisais du modélisme, etc. Au pavillon des États-Unis, et ça c'est un souvenir bien précis, il y avait au fait l'entrée, le rez-de-chaussée, où il y avait même des personnes qui... Il y avait un défilé de mode sur un plan d'eau. Puis des escaliers, il y avait un premier étage. Il n'y avait qu'un étage. Et là, il y avait un centre récréatif pour les moins de 12 ans. Au-dessus de lequel, il y avait une passerelle. Donc une partie était avec une toiture, et le restant était ouvert, et les visiteurs pouvaient passer au-dessus de ce centre récréatif. Et j'ai été une première fois, j'avais adoré parce que il y avait des grands pupitres, de la gouache, des grandes feuilles, et les gens pouvaient regarder à travers des hublots dans les parois ou par au-dessus. Et bon, j'ai une bonne mémoire visuelle et que je dessine beaucoup, hein, à l'époque déjà aussi. J'y étais plusieurs fois. Et alors, on faisait des peintures, des dessins. On recevait un grand rouleau pour vous ramener à la maison. Et un jour, j'ai été 7-8 fois là, je crois, au total. Et j'ai dessiné de mémoire, de face, le pavillon américain. Avec le bassin, les arbres, les jets d'eau et la forme et la perspective de tout le pavillon américain à la gouache. C'était un dessin qui était assez grand. Et quand j'ai fini mon dessin, j'ai encore dessiné d'un côté l'étoile de l'Expo 58, avec la planète. Et de l'autre côté, comme il y avait une hôtesse à côté de moi, qui avait son macaron de l'insigne, elle était pas loin, elle venait voir de temps en temps ce que je faisais, ça l'intéressait. J'ai reproduit dans un coin l'insigne. Je l'avais devant moi, à côté de moi. Ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y avait deux hôtesses de pavillon américain, toujours, qui se promenaient avec les visiteurs sur la passerelle au-dessus et qui observaient de haut mon dessin qu'elle voyait. Et quand j'ai fini mon dessin, avant la, on avait une heure grosso modo, une des deux est descendue et venue me voir et m'a dit « Est-ce que tu reviens encore faire un dessin pareil la prochaine fois ?» J'avais vu, j'ai fait le macaron. « La prochaine fois que tu viens, tu refais le dessin et je voudrais bien l'obtenir. » Et en échange, je te donnerai le macaron. Ben, à 12 ans, réfléchis un petit peu, quand même. J'ai dit, mais, au cas où je reviens, mais qu'elle n'est pas là, etc. J'ai dit, mais, je vous donne le dessin. Vous pouvez toujours recommencer pour moi plus tard. Elle a été prendre des ciseaux, elle a arraché son écusson, et cet écusson, je l'ai toujours dans ma farde de documentation du pavillon américain. Il se fait que, quand j'ai présenté la maquette, il y a eu quelques interviews et j'ai passé un message en demandant, parce que j'ai plus jamais entendu parler de cette hôtesse. Et elle parlait en français. Enfin, elle m'a parlé en français. Je crois pas que c'était une américaine. Et j'ai laissé un message, mais j'ai jamais eu de réponse. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il savait plus ou moins qui ça pouvait être, qu'elle serait plus là. Enfin bon. Mais je n'ai pas eu de réponse réellement à cette question. Ça m'aurait plu de la rencontrer. Elle a peut-être encore tout mon dessin, ou dans la famille.
Nous, les Belges, sommes des bourguignons. Nos grands produits d'exportation sont, sans surprise, la bière, les frites et le chocolat. Et donc, la nourriture ne pouvait pas manquer à l'Expo 58. Chaque pavillon mettait en avant des spécialités locales et leur menu regorgeait de classiques de l'époque. Attendez-vous donc à du coq au vin au pavillon français, des spaghettis bolognaises à l'italien et des cocktails de crevettes ou de moules si vous visitiez le restaurant belge. Mais des entreprises comme Planta, Marie Tuma et Germinal proposaient également leurs nouveaux produits. Il y en avait donc pour tous les goûts.
Il y avait des aérateurs, des grilles, des cuisines. Quand vous passiez le matin vers 11h, ça sentait le café. Et une fois, midi moins quart, midi, ça commençait à avoir l'odeur de grill arrivait et suivant le vent, ça balayait la passerelle et vous le sentiez toute l'après-midi jusqu'à 3-4 heures. En fin de journée, c'était à nouveau le café. Ça, c'était éteint. Souvent, on passait la journée. Je sais qu'il y avait, par exemple, au pavillon de l'alimentation. Ce sont des souvenirs. Hein. Il y avait la marque de margarine. Il y avait, je ne sais plus, Planta. On allait sur le stand de Planta, près du jardin des quatre saisons. Et je sais qu'on pouvait avoir une tasse de café avec un sandwich. Et près, ils donnent, sur la table, il y avait comme une petite cuillère en plastique qui faisait des lignes de Planta. Donc on pouvait beurrer, enfin c'est de la margarine, hein, on pouvait margariner le sandwich. On a souvent été prendre un sandwich comme ça. Mais sinon, il y avait pas mal de restaurants. Je me souviens qu'on a mangé à différents restaurants, un peu éparpillés. Il y avait de quoi manger partout. Hein. Le pavillon de Portugal avait son restaurant Porto, qui était un bâtiment séparé. Le pavillon brésilien, Là, je sais que je pouvais pas en prendre à cette époque-là. Mais c'était un pavillon en spirale. Et tout en bas, il y avait comme un jardin. Et puis, il y avait un grand comptoir et une barre. Un bar. Et là, il donnait, je sais plus, il donnait, ou il fallait acheter, je ne sais plus, un grand verre d'un genre de breuvage. Est-ce que c'était une bière ou un café? Je ne sais plus, mais c'était brun foncé et un collet blanc. C'est peut-être un café, je ne sais plus, brésilien. Mais chaque pays avait, la plupart des pays, même les Pays-Bas, il y avait les brasseries Heineken en bas. Chaque pays avait son bar. La ville de Paris, qui est à côté du pavillon français. Le pavillon de Paris, c'était surtout la mode, les tissus, etc. Mais en dessous, il y avait le restaurant, le Paris, qui était le restaurant du pavillon français et de la ville de Paris. C'était deux bâtiments. Mais ils avaient le restaurant commun. Partout, il y avait des restaurants. Chaque pays imaginait un peu montrait sa culture, sa cuisine. Une autre question, il n'y avait aucun pavillon qui vendait du matériel ou des souvenirs. Donc, je parle de pavillons étrangers. Il y avait au centre du parc de Seguin, pas loin de l'Atomium, où il y a des étangs et des fontaines, il y avait le petit théâtre de verdure, et puis il y avait sous Pilotti deux longs bâtiments. Et là, c'était tous des magasins. Donc, les gens qui voulaient acheter, par exemple, des souvenirs de pavillons du Cambodge ou de la Thaïlande, du Japon, etc., ou des soieries, ils allaient dans ces pavillons-là, et là, il y avait des commerces. Donc, les gens pouvaient acheter à l'expo des souvenirs d'un pays lointain, mais pas dans le pavillon officiel. Au pavillon officiel, on donnait de la documentation, un souvenir gratuit, si vous voulez, ou bien on pouvait consommer une boisson typique, soit offerte, soit payante.
Les pavillons majestueux, les promenades merveilleuses et les charmantes hôtesses, c'était déjà impressionnant. Mais c'était rien en comparaison avec la star de l'expo, l'Atomium. Avec ses sphères brillantes, c'était une vision futuriste et un symbole de progrès scientifique et technologique. Même aujourd'hui, l'Atomium est un emblème de Bruxelles et de la Belgique. Étienne était émerveillé. Il est donc heureux que l'Atomium existe encore. Car comme la plupart des pavillons, l'intention était bien de le démolir après l'expo. Mais tout comme Étienne, les Belges ont aussi adopté l'Atomium dans leur cœur. Et il est devenu un symbole national de la Belgique.
Moi, disons que je suis pas un peu mal placé pour répondre à cette question parce que comme j'étais conditionné par mes parents, par mon père, pour venir, on venait venir faire des photos ici, avant l'expo et après l'expo, hein, la démolition aussi, tous les pavillons là en photo, hein, même de la passerelle, j'ai tout en photo, hein, c'est une grande photo. Hein. Donc j'ai vu de mes propres yeux régulièrement, pas seulement quand je passais avec le tramway en bas, mais avec mes parents, mon père, on venait faire des photos tout près du chantier ici. On a vu tout ça en construction. Et j'ai tous ces documents à la maison. Donc j'ai été dedans. Oui, c'est un symbole. Hein? On a de quoi être fier. Hein? De toute façon, moi j'étais déjà bien content que l'Atomium, qui était destiné à rester une année, est resté une dizaine d'années, puis il a dit on va quand même le démolir, et puis on a finalement, en 2007, je crois, 2008, ils ont enlevé toutes les parois, et on a mis en inox, et qu'il est resté à titre définitif. C'était, mais je vous dis, mon grand chagrin, si je puisse parler comme ça, c'est que de tout ce qui est autour, il n'y a plus rien. Il reste les traces du théâtre de verdure, les deux départs de la grande passerelle dont on a déjà parlé, il reste encore les deux blocs, la base du pavillon américain et le théâtre flamand qui était l'ancien théâtre américain, il reste la fontaine en bas et le petit pavillon de Loge Expo. Qu'est-ce qui reste? C'est tout. Oui, et le pavillon des plâteries ici en contrebas. Qui est un restaurant maintenant, qui était un dancing, qui a été fermé très longtemps. C'est le pavillon des plâteries et des tuileries de Courtrai. La petite boule blanche qui est derrière les arbres ici. Il est resté. Heureusement, on a encore quelque chose. Mais c'est tout.
Le pavillon de Courtrai.
Lequel?
Courtrai.
Ah oui, mais non. Oui, mais ils sont plus ici. Ah oui, alors il reste encore un tas de pavillons. Le Canada, c'était une école, je crois, du côté de Brascat. Vous avez plusieurs bâtiments qui sont devenus des écoles, qui ont été démontés, reconstruits. Vous avez Côte d'Or, qui est sur la chaussée de, auprès de, après Metz, qui est devenu un dancing. Vous avez le pavillon de IBM, qui est aussi du côté vers Beaune, avant Beaune, qui était, le bâtiment était agrandi, de la même structure, mais c'est un bâtiment qui est occupé par des revendeurs de tuiles, de briques, etc., de matériel de bâtiment. Vous avez le restaurant de la Tchécoslovaquie, qui était sur pied en 2001, qui a été démonté et reconstruit dans un parc à Prague. Je l'ai vu à Prague, mais il n'est plus occupé comme restaurant, mais il est vide, mais il était sauvé aussi. Il y a un tas de bâtiments qui ont été sauvés, hein, ou démontés. Tout près de chez moi, à Limal, ils n'ont pas reconstruit le bâtiment, mais le bâtiment de la Norvège, qui était en face de l'Autriche, le bâtiment a été complètement démonté, et tous les morceaux, les poutres, les plans, c'était beaucoup de bois et de poutrelles, tout était démonté, et avec ces éléments-là, ils ont refait une salle de fête à Limal. Ça ne ressemble plus au pavillon, ça n'a rien à voir. Mais ce sont les éléments du pavillon.
L'exposition universelle à Bruxelles était quelque chose d'unique. Elle a rassemblé des millions de personnes et leur a ouvert les yeux sur le monde. Mais l'exposition universelle aurait-elle le même succès aujourd'hui ?
Parce qu'un événement comme ça, qui montre le monde, c'est le monde, la Belgique d'une part, mais c'est le monde extérieur qui vient en Belgique et qui dit voilà ce que nous sommes. Vous ne savez pas faire, vous n'aurez plus jamais ça, parce que à cause de l'Internet, c'est même plus réalisable. Les gens viendront jamais vous montrer. Vous avez tout sur Internet maintenant, hein, on navigue. Hein. Par contre, pour voir ce que nous avons vu à cette époque-là, on aurait dû prendre l'avion dans tous ces pays. Et voilà la chance qu'on a eue. On a ceux qui sont intéressés à l'expo et qui en ont bien sûr gardé le meilleur souvenir, se rendent compte encore aujourd'hui de la chance qu'on a eue. Et en plus, c'était quand même, malgré qu'il y a eu des mouvements néerlandais, flamands, etc., qui ont suivi ça, hein, les années 60, c'était pas loin, hein, ça commençait. Mais c'était quand même un symbole, allez, innocemment dit, d'une Belgique unie. Hein. Soyons ensemble, le lion fait la force, et l'expo, c'était un symbole d'unité. Pourquoi se séparer quand on peut faire des choses ensemble? Et cette chose-là, on l'a quand même bien faite.
Il est certain que l'Expo 58 a inspiré toute une génération. Chaque personne qui y a été confrontée a été touchée d'une manière ou d'une autre. Pour Étienne également, l'exposition universelle à Bruxelles reste un souvenir vivant. Si vivant qu'il a réalisé une maquette de l'Expo 58. Mais s'il pouvait voyager dans le temps, qu'irait-il visiter?
On regarde tout, on reprend son temps, on va tout revoir. Il y a tellement de choses à voir partout. On ne peut pas dire qu'il faut aller là et pas là, il faut tout revoir. Et je crois que j'en ferais beaucoup plus si j'y étais 52 fois. Maintenant, j'irai 200 fois. Tout dépend du nombre de temps qu'on nous donne. Au point que je me dis toujours, si dans ma vie, on pouvait, en fin de vie, un jour ça vous arrivera aussi, de dire, il y a une chose que j'aimerais bien revoir, mais avec mes yeux d'adulte, avec une bonne caméra vidéo et plus avec un appareil photo, eh bien ce sont ces 6 mois de l'expo. Ça, c'est une chose dans ma vie qui est passée, bien sûr, quoi, mais que j'aimerais bien revoir, réellement, rentrer dedans. Et c'était un peu le but de la maquette, c'est de pouvoir... En fait, la maquette, je l'ai fait. Personne ne m'a jamais demandé de faire ça. Hein. C'est, en fait, comment ça s'est passé? C'est moi qui voulais, égoïstement, pour moi, avoir construit cette maquette, me sentant capable de le faire, pour pouvoir la revoir. Et il se fait qu'en 2019, elle fut terminée. Et en 2020, au mois de mai 2020, au JT à la RTB, Julie Almot est interviewée au JT et elle dit « Ouais, à cause du Covid, on a dû fermer 3-4 mois. J'ai perdu 3 millions déjà de... On est une quarantaine de personnes. Notre ASBL, que nous payons sous fonds propres, on n'a pas de subsides de la ville de Bruxelles. On va probablement ouvrir lors du premier déconfinement, donc début juillet. Et on, c'était la lame, c'était fin mai, début juin. Et je dis à mon épouse, moi j'ai cette maquette, et beaucoup de personnes de mon entourage m'avaient déjà dit, ou des voisins, ou de la famille, enfin tu gardes cette maquette pour toi, tu devrais l'exposer. Et je dis oui, mais je connais personne à la SBL, puis bon, je l'ai fait pour moi, enfin, égoïstement. Hein. Oui, peut-être, je ne sais pas, je n'avais pas d'idée. Mais quand j'entendais cette phrase de Julie qui disait, on est coincé, on a perdu de l'argent, on est bloqué, tout est fermé. J'ai dit à mon épouse, moi je vais y contacter. Et on parlait d'ouvrir donc l'atomium de nouveau. J'ai téléphoné, j'ai pris dans le bottin, enfin sur Internet, hein, j'ai cherché les coordonnées de la SBL et je suis tombé sur un garde qui m'a dit, vous savez, je suis seul ici, mais il n'y a personne, on est fermé, on va probablement rouvrir début juillet. Alors, j'ai dit, est-ce que je peux avoir les coordonnées de deux personnes? Elle m'a donné de M. Simons, Henri Simon, et alors le Julie, le GSM, et l'adresse mail. J'ai fait tout un mail explicatif, et j'ai ajouté une quinzaine de photos de la maquette. Et j'ai dit, voilà, je voudrais, pour vous donner un coup de pouce pour la réouverture, ce serait un argument pour faire attirer les gens, parce que les étrangers ne pouvaient pas venir, avec les Belges au début. Hein, pas oublié. Je vous la propose, venez voir, on peut s'entendre, et je vous la prête gracieusement. Et au fait, je la prête gracieusement, que ce soit bien clair, gracieusement, depuis le 20 juillet. Donc, ils sont venus à la maison, on a discuté un petit peu. Bon, eux me la protègent, mais la maquette est ici. J'en reste propriétaire, mais elle est pour. Qu'elles servent comme souvenir pour tout le monde, quoi.
Merci de nous avoir écoutés. Vous voulez plus d'histoires ? Écoutez alors les autres podcasts et plongez-vous dans le monde de l'Expo 58. Vous voulez en savoir plus sur l'Atomium ou l'exposition universelle ? Allez sur atomium.be pour toutes les informations ou visitez l'exposition permanente sur l'Expo 58 dans les sphères de notre monument national.